La marche du monde.
SNCF et tous les agents de la gare du Nord vous souhaitent un agréable voyage sous nos lignes à grande vitesse.
Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission en partance pour Lille, dans le nord de la France. Nous avons rendez-vous avec l'une des plus brillantes intellectuelles françaises, une historienne voyageuse et profondément humaine, Annette Becker. Annette Becker est spécialiste des violences de guerre contre les civils et elle enseigne à l'université Paris-Nanterre. Mais elle nous a donné rendez-vous dans les rues de Lille, la ville où elle a commencé sa carrière il y a bientôt 30 ans, en 1989. C'était un an après son agrégation. Mais si Annette Becker a fait sa thèse sur le réveil religieux dans les colonies anglaises d'Amérique au XVIIIe siècle, c'est au monument aux morts qu'elle a consacré son premier livre la même année. C'est donc au pied d'un monument qu'elle m'a donné rendez-vous. Alors je dois être tout près puisque là nous sommes rue de Douai. Je dois passer devant le bistrot Les 18 Ponts, donc c'est bien ça. Ah bah voilà, j'aperçois au loin donc cet immense monument aux morts devant lequel je dois retrouver Annette Becker. Là je traverse la rue, je la vois, elle est juste à côté du monument, un monument aux victimes des 18 ponts. Bonjour.
Bonjour Valérie.
Bonjour Annette Becker, comment ça va?
Très bien.
Voilà, bon évidemment, on a rendez-vous devant un monument aux morts. Vous êtes incorrigible.
Ah bah je peux pas me changer, c'est trop tard. Et c'est un endroit qui me va bien. C'est un endroit qui me va bien parce qu'il y a écrit 1916 aux victimes des 18 ponts. Et c'est un monument aux morts vraiment... spécial parce qu'on est au cœur de Lille et on est au cœur du Nord aussi, entre la rue de Valenciennes, la rue de Maubeuge, la rue de Douai. On est de tout un secteur qui était occupé pendant la Première Guerre mondiale.
Lille est occupée par les Allemands. Le 11 janvier 1916, une violente explosion détruit tout le quartier des 18 ponts. 21 usines et 738 maisons ont été soufflées. C'est la poudrière qui a explosé. Mais l'histoire ne dit pas qui en est responsable. L'occupant déplore officiellement 30 morts, mais on relève 104 victimes civiles, parmi lesquelles des familles entières, et 300 à 400 blessés, dont 116 grièvement.
Ce monument, il a été créé juste après la guerre. Ceux qui ont exprimé cette horreur de l'explosion, ces enfants affolés, l'ont fait dans l'état d'esprit exact dans lequel on était au moment de l'explosion de la poudrière. Ce qu'on voit sur le monument, c'est donc des gens qui sont en train de vivre, je dirais, une triple peine. Première peine, c'est qu'on ne voit pas de jeunes, d'hommes jeunes, bien sûr, parce que les hommes jeunes sont partis à la guerre en 1914. Puis la ville a été occupée, et donc les Allemands occupent la capitale du nord de la France. Il n'y a plus que des enfants, des femmes et des vieillards, ce qu'on voit très bien. Donc deuxième peine, partir à la guerre et puis être occupé. Troisième peine, il y a eu une explosion qui a ravagé le quartier et ces civils qui vivaient une guerre en première ligne, une guerre d'occupation, se retrouvent ici au cœur d'une terrible explosion. C'est pour ça que ce quartier, on y voit encore quelques petites maisons anciennes, mais l'essentiel bien sûr a été reconstruit après la Première Guerre mondiale. Et je dois dire que ce genre de monument et ce genre d'histoire, quand je suis arrivée à Lille il y a une trentaine d'années maintenant, ça m'était totalement inconnu. Pour moi, la Première Guerre mondiale, c'était la guerre des soldats, la guerre des tranchées. Et puis j'arrivais dans une ville qui avait vécu une occupation terrible de par la volonté de l'ennemi, mais terrible aussi parce que quand on est en première ligne et qu'on est civil, eh bien, on risque ce qui vient de se passer là, cette catastrophe. Ce Nord extrêmement catholique a vécu cette guerre très, très spécifique aussi comme un chemin de croix. Bien sûr, c'est visible absolument partout, dans les images, dans les textes. Et la femme au centre qui a la main sur la bouche, elle ne peut pas croire ce qu'elle voit. Elle a la main devant la bouche et c'est très intéressant parce que au même moment, c'est la bataille de Verdun. Et un des symboles de la bataille de Verdun, c'est une femme, mais cette fois complètement allégorique, qui met la main devant sa bouche, plus exactement un doigt, et elle est perdue dans son silence. Devant tant d'horreur, on ne peut qu'être dans le silence. Et la présence des femmes, allégorique ou pas, c'est quelque chose qui m'a frappée extrêmement tôt. Et là, cette femme... elle n'est pas allégorique, c'est une vraie femme. C'est une vraie femme, une vraie civile, quelqu'un qui s'est levé le matin pour aller au travail et qui se retrouve dans la catastrophe de la guerre.
Annette Becker, donc nous sommes devant ce monument aux morts, ici, à une dizaine de minutes à pied de la gare de Lille-Flandre, par laquelle Elliot Bourrel et moi-même nous sommes arrivés de Paris pour vous retrouver. Comment vous est venue cette passion pour les monuments aux morts? Vous êtes une historienne voyageuse et je vous vois souvent sur le terrain, y compris en Afrique, avec votre appareil photo, parce que non seulement vous êtes passionnée par les monuments aux morts, mais en plus, vous les prenez en photo. Mais depuis quand?
Alors c'est une passion de jeunesse, c'est une passion d'avant l'historienne, je dirais, une passion personnelle qui est sans doute venue de mes origines familiales. Très tôt, j'ai participé à des cérémonies autour d'un monument aux morts. C'était le petit village de mes grands-parents maternels dans le Dauphiné. Il se trouve que mon grand-oncle était le président des anciens combattants. Et c'était un grand-oncle que j'aimais beaucoup, et que j'aimais beaucoup parce que c'était un bout en train. Il était rigolo, il nous faisait toujours des blagues.
Il s'appelait comment ?
Il s'appelait Louis Morel. Et cet homme très, très drôle n'était sérieux qu'un jour par an. C'était le 11 novembre. Et ça m'a frappé très, très tôt. Pourquoi? C'est difficile à dire. J'avais bien sûr un père historien, Jean-Jacques Becker, mais je ne savais pas du tout à l'époque sur quoi il travaillait. Je n'avais strictement aucune idée.
Et alors l'appareil photo, le fait de photographier le monument, ça vient quand?
C'est venu assez vite. Et si j'ai un regret, c'est que du temps du vivant de mon grand-oncle Louis, je ne prenais pas encore de photos.
J'aimerais qu'on parle d'images justement et de votre goût pour l'art et plus particulièrement pour l'histoire de l'art. L'historienne, elle va dans les centres d'archives, elle va consulter les documents laissés par les polices, les militaires, les centres de renseignement. Mais vous faites aussi une histoire qui se pratique sur le terrain. On dirait que vous avez besoin d'aller voir depuis toujours, d'aller voir, est-ce que c'est aussi à l'écouter, est-ce que c'est aussi à les sentir. Est-ce que pour vous c'est aussi ça, faire de l'histoire?
Absolument. Je pense que les historiens, les historiennes qui ne vont que dans les dépôts d'archives, qui n'y voient que l'écrit, finalement passent à côté de beaucoup de choses. Et c'est paradoxal, parce que c'est plutôt les historiens du 19e et 20e siècle qui s'intéressent le moins, ou qui s'intéressait le moins, parce qu'on a fait de gros progrès, à ce que j'appellerais la culture matérielle et la culture des êtres humains sur le terrain. Ça ne viendrait jamais l'idée à un historien de l'Antiquité de ne pas faire d'archéologie. Et donc c'est au cours du 19e siècle que l'on va créer l'idée du monument commémoratif pour les gens ordinaires. Et c'est quelque chose qui se fait partout. On est ici en France, mais c'est un mouvement qui est un mouvement vraiment mondial. Et donc, faire de l'histoire mondiale ou faire de l'histoire transnationale, en tout cas ce qu'on fait aujourd'hui, sans aller voir la culture visuelle, la culture audio, la culture des sens, c'est absolument impossible.
Bonjour.
Bonjour, vous allez bien jusqu'au bout du boulevard?
La Liberté?
Oui. Très bien.
Merci.
Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI. Nous sommes dans le bus avec Annette Becker à Lille et nous sillonnons le boulevard de la Liberté à la découverte des héros et des héroïnes de l'historienne, spécialiste des violences de guerre contre les civils.
On a bien gagné du temps.
Annette Becker, lorsque vous êtes arrivée à Lille, ici, il y a 30 ans, quelles étaient les traces un petit peu de cette Première Guerre mondiale? Parce que c'est quand même une ville qui a été extrêmement marquée par ce grand conflit.
À l'époque, les traces de la Première Guerre mondiale étaient à peu près les mêmes qu'aujourd'hui, je dirais. Principalement, énormément de monuments aux morts. Et puis, à la citadelle où nous arrivons maintenant, les différents emplacements où les résistants de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire les passeurs d'hommes, puisque c'est principalement cela qu'ils ont fait, ont été fusillés. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est le monument à leur mémoire. Face au monument de Gaulle, ce qui est intéressant bien sûr, puisque de Gaulle est natif de Lille et que c'est un point très, très important pour relier les deux guerres mondiales.
Général de Gaulle, le héros de la France libre,
oui,
de la Seconde Guerre mondiale.
Qui était aussi un héros de la Première Guerre mondiale, beaucoup plus méconnu.
Un soldat
qui a été fait prisonnier et qui a connu le sort terrible des prisonniers. Et c'est certainement une des expériences les pires de sa vie qui a été à l'origine de sa décision de résister dès le premier jour.
Bon, le petit bonhomme est vert, on peut traverser. Donc là, on arrive sur cette place. C'est à nouveau un monument en pierre blanche assez imposant, hein, à peu près de la même taille au fond que celui des victimes des 18 ponts.
Oui, c'est d'ailleurs le même sculpteur qui s'appelle De Ruel. Et ce monument est un monument passionnant parce qu'il a été fait, refait, détruit, refait. Et il présente à peu près toute l'histoire de la ville pendant les deux guerres mondiales. Alors il s'appelle très, très sobrement Lille à ses fusillés. Et on voit donc ici cinq hommes. Quatre sont debout et le sculpteur a essayé de représenter celui qui est un soldat, les autres sont des civils. Il s'agit de résistants de la première heure. Et qu'est-ce que ça veut dire résister dans la Première Guerre mondiale? Cela veut dire essayer de faire passer des soldats hors de la zone d'occupation pour qu'ils puissent retourner se battre. C'est pour ça qu'on les appelle des passeurs d'hommes. Et puis le cinquième, c'est un très jeune passeur d'hommes qui a été fusillé ailleurs. Et c'est donc pour cela que Léon Trullin est présenté à terre, puisqu'il n'a pas été fusillé avec les autres.
Annette, je vous propose qu'on s'approche. Et on peut préciser à nos auditeurs que chaque passeur d'hommes, chaque homme représenté par le sculpteur, est représenté un peu plus grand que la taille réelle.
Oui. Ils sont un peu héroïsés. Et d'ailleurs, le monument s'appelle Lille à ses fusillés. Il pourrait s'appeler Lille à ses héros civils. Ça serait intéressant de voir que c'est la première fois, en fait, pratiquement dans l'histoire des guerres contemporaines, que des civils résistent de cette façon-là, en aidant d'autres à pouvoir continuer le combat. Ça ne va pas dire qu'eux-mêmes prennent les armes, bien sûr, on n'est pas dans ce genre de résistance, mais on aide ceux qui sont soldats à pouvoir continuer à faire leur devoir patriotique. Et c'est ça, l'héroïsme des civils-là. Ce qui est intéressant aussi dans ce monument, c'est qu'il a une longue histoire, parce que quand les Allemands sont arrivés de nouveau en 1940 à Lille, et qu'ils ont occupé la ville pour la deuxième fois, eh bien, ils ont détruit ce monument. Parce qu'ils ont considéré qu'un monument à la résistance était impossible à garder. Et ils se sont contentés de le détruire, ils ont laissé les pièces sur le sol. Et dans la nuit, des gens courageux, parce qu'ils risquaient beaucoup, sont venus récupérer tout ce qu'ils ont pu du monument, et en particulier les têtes. Et il a été reconstitué après la Deuxième Guerre mondiale.
Je voudrais vous poser une question, Annette Becker. Vous m'avez donné rendez-vous ici à Lille, dans la ville où vous êtes professeur. Vous vivez depuis 30 ans, vous, la grande spécialiste mondiale de la Première Guerre mondiale et des violences extrêmes. Nous avons vu donc ce monument avec ces femmes, ces vieillards, ces enfants, ces victimes des 18 ponts. Nous sommes maintenant devant le monument Lille à ces fusillés, avec encore des civils. Ces cinq passeurs d'hommes, ces cinq résistants qui ont été fusillés pendant la Première Guerre mondiale, est-ce qu'ils sont vos héros et vos héroïnes, ces civils martyrs en quelque sorte de la Première Guerre mondiale ?
Oui, tout à fait. Ce qui est très frappant dans ces hommes et ces femmes, c'est que ce sont des gens agissants. Je n'aime pas le terme de victime, dans le sens où la victime ne fait rien et attend d'être maltraitée, fusillée, torturée. On a ici des citoyens qui décident, quelles que soient les difficultés, d'agir. Et c'est ainsi qu'on les a représentés à l'époque, bien sûr. Alors, il y a peut-être un tout petit peu de mythification. Ils n'étaient peut-être pas tous aussi brillamment héroïques qu'ils sont représentés ici. Mais je crois qu'il y a quelque chose de vrai. Quand il vous arrive quelque chose qui est tout à fait extraordinaire, on a l'habitude de voir les hommes partir à la guerre et les femmes, les enfants, les vieillards, de rester dans ce qu'on appelle l'arrière. Et là, ce n'est plus le cas. Tout le monde est à l'avant. Et donc, tout le monde doit bien se positionner par rapport à l'avant. Et par exemple, ce qui n'est pas représenté sur ce monument, mais qui pourrait l'être et qui l'est sur le monument de Roubaix, par exemple, eh bien, on voit des femmes qui refusent de travailler pour l'occupant, qui disent non, remplir des sacs de terre qui vont aller protéger vos tranchées, vous, nos ennemis, ce n'est pas possible. Et faire grève en temps de guerre, c'est terrible. Mais ces femmes choisissent d'agir avec patriotisme, mais en même temps dans le respect de ce qu'elles sont. Et ça me paraît très important.
Alors, Annette Becker, cette implication des civils en temps de guerre, est-ce que ça a été votre grand choc lorsque vous êtes arrivée ici, à Lille ?
En tant que jeune historienne, ça a été un énorme choc. Et d'autant plus que le choc est venu de mes étudiants, ce qui est formidable. Quand je leur ai dit qu'on allait étudier tout ce qu'on pouvait voir de la Grande Guerre, que ce soit les traces sur le terrain, les monuments, ils ont dit « mais on va pas voir les civils ». Alors j'ai dit « ben, il n'y a pas beaucoup de civils ». Et ils m'ont dit « mais à Lille, il y en a plein ». Et ça montre combien, il y a 30 ans, on avait une histoire extrêmement cloisonnée. Moi, je venais de l'histoire nationale française, donc je connaissais les soldats. Et je connaissais un arrière, mais un arrière très lointain. Je connaissais l'arrière du Dauphiné, l'arrière de Toulouse. Je connaissais des femmes en pleurs. Je ne connaissais pas des femmes en action. Et c'est là que je les ai découvertes.
Depuis le début de cette balade sous un ciel sans nuages, nous avons regardé les monuments aux morts de la ville de Lille, mais pas ceux dédiés aux soldats. Ce sont les monuments dédiés aux civils, c'est-à-dire à tous ceux qui ne sont pas sur le front, qui intéressent Annette Becker. Des vieillards, des femmes, des hommes et des enfants marqués par les violences de la guerre et de l'occupation allemande pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale.
Voilà, on est arrivé à la maison bleue.
Les femmes civiles en temps de guerre, l'historienne les a joliment qualifiées de femmes agissantes, comme sa mère, récemment disparue. Une mère communiste qui avait le profil d'une énarque, mais qui n'a pas pu passer le concours, interdit aux étudiants politisés. Annette Becker disait souvent à sa mère qu'elle l'avait vaccinée contre le totalitarisme, car en mars 1953, sa mère, enceinte, était allée pleurer au faux enterrement de Staline à Paris.
Bon, ben voilà un album de photos d'enfance. Après, on passe à mes propres photos. C'est vraiment bizarre comme il n'y a pas de photos de ma mère. C'est vraiment étrange.
C'est quoi le prénom de votre mère ?
Paulette. Et les petites filles l'appelaient Popo, donc c'est devenu son nom. Et en fait, Popo, ça veut dire grand-mère en chinois.
Ah, d'accord.
Donc dans une famille où tout le monde est en train de voyager dans tous les sens, c'était quand même assez drôle. Ah si, là, il y a ma mère. Il y a ma mère et ma grand-mère, et moi, et une amie de la famille.
Là, c'est toutes les femmes de la famille, parce que...
Ben, c'est trois femmes de la famille, oui, ma grand-mère... maternelle, qui était institutrice et qui s'intéressait à tous les arts. Je pense que c'est beaucoup par elle et par maman que l'intérêt pour les arts est venu.
Pour les images.
Les images, elle dessinait extrêmement bien. Le dessin, le chant.
Est-ce que c'est une famille où on chante beaucoup, où on chantait beaucoup ?
Énormément. Alors, il y a deux sortes de chants. Il y a les chants des grands-parents des deux côtés, qui étaient plutôt des opérettes, des opéras, et puis des chants populaires.
Ouais.
Et puis ensuite, il y a la strate communiste.
Oui, parce que ça, c'est très important dans votre famille.
Et ça, c'est très important dans ma famille. Ouais. Et alors ça, je me rappelle dans la voiture.
Ouais.
Moi, je chantais la Jeune Garde, toute petite. Et j'ai continué à le faire toujours. Maintenant, on le fait avec humour, ou ironie plutôt. Et
donc, ça veut dire qu'Annette Becker, petite fille, connaissait par cœur le chant des partisans international.
Oui, bien sûr.
Ouais.
Oui, oui, oui.
Et vous aimez encore
et
le chant?
Et puis, les chants des camps de la Deuxième Guerre mondiale, des camps de concentration et d'extermination.
Parce que ça, c'est une dimension de la famille très importante aussi.
Très importante aussi, des deux côtés de la famille. Le chant des marais, par exemple, était quelque chose que... J'ai appris le chant des marais en même temps que j'apprenais le chant des partisans. J'ai les deux à la fois.
Et vous pouvez le fredonner un petit peu?
Vers l'horizon s'étendent des grands champs marécageux. Piochon, mais un jour tu reviendras.
C'est émouvant, en fait.
Oui, c'est un peu difficile comme ça, tout d'un coup. Alors, évidemment, le chant des marais, c'est à la fois l'horreur du camp de concentration, mais c'est pas l'extermination. Et c'est aussi un chant d'espoir de communistes qui reviendront pour faire la révolution. Malheureusement, c'était pas le cas le plus normal.
Thank you.
Donc c'est moi toute petite quand j'avais les cheveux raides.
Ça, j'ai du mal à le croire que vous aviez les cheveux raides. Hein, parce qu'aujourd'hui, vous avez une coiffure bouclée,
oui,
les cheveux lâches aux épaules,
oui.
Un peu comme un soleil. Ça, c'est aussi votre image qu'on reconnaît bien, qu'on connaît bien. Ah oui, là, vous aviez effectivement les cheveux tout raides, toute petite, en barboteuse. Petite photo noir et blanc.
Mon grand-père paternel, mon grand-père Becker, a fait la Première Guerre mondiale. Il a même eu la Légion d'honneur à titre militaire, ce qui prouve qu'il a fait une belle guerre, comme on disait à l'époque. En fait, il était très, très petit et très résistant. Et il portait des messages très, très urgents à toute vitesse, je crois avec beaucoup de courage. Et son casque trônait dans l'appartement parisien. Donc je l'ai toujours vu.
C'est incroyable parce que j'imagine que lorsque vous étiez une jeune fille, puisque votre père lui-même était historien, et vu votre nature, j'imagine que vous ne vouliez surtout pas faire comme lui.
Eh bien, exactement. Et donc, j'ai toujours vu le casque de mon grand-père. Je ne me suis jamais intéressée à ça. Et ça va très loin, puisqu'il est mort quand j'étais déjà jeune agrégé d'histoire, et que j'adorais ce grand-père, on parlait de tas de choses, mais surtout, on parlait de la Seconde Guerre mondiale.
Donc à l'époque, ça voulait dire que l'histoire familiale, c'était pas l'histoire avec un grand H.
Exactement. Ça, c'était ma profession. Et par ailleurs, il y avait les histoires de famille. Mais le fait que les deux puissent coïncider était impensable. Et pour mon grand-père, c'était évident. Quand je suis venue à m'intéresser à la Première Guerre mondiale, il était malheureusement déjà mort, mais j'aurais pu tout de suite aller chercher les archives familiales, puisqu'il y en avait. Eh bien non, ça ne m'est pas venu à l'idée. En montant l'escalier, alors il y a quelques livres d'artistes que j'aime particulièrement ou que j'ai achetés récemment. Et l'escalier sert de bibliothèque, comme vous allez voir. Ça, c'est théoriquement mon bureau, mais il est tellement plein de livres qu'on a du mal à passer.
La maison d'Annette Becker, c'est une maison bibliothèque avec une pièce pour les livres d'art, une autre pour les livres de la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, et encore une autre pour la Première Guerre mondiale et le génocide des Arméniens. Ce qui rappelle que très tôt, dès les années 90, Annette Becker a vu le lien entre la guerre et la destruction des civils.
À l'époque, c'était impensable de mêler l'étude de la Grande Guerre et l'étude du génocide des Arméniens. Et si j'ai une fierté historique, une fierté professionnelle, parce qu'après tout, on peut le dire, c'est d'avoir lié les deux. Ce qui m'a été, dans un premier temps, extrêmement reproché par des collègues qui disaient « Mais qu'est-ce que ça vient faire au milieu de la guerre ?» Ils ne comprenaient pas. Pour eux, évidemment, l'Empire ottoman était en guerre, l'expédition des Dardanelles, ça s'étudiait. Mais que, au même endroit pourtant, et ça ils auraient pu regarder une carte, ou ailleurs en Anatolie, on assassinait tout un peuple, c'était pas leur problème d'historien de la Grande Guerre.
En revanche, ça n'avait pas échappé à l'un de vos héros, à Lemkin, à ce messager du désastre, puisque c'est le titre de votre dernier livre, Annette Becker, et vous m'avez confié que vous avez dédié une pièce entière à Lemkin et à Kerski. Alors, est-ce que ce sont eux aussi, évidemment, vos héros et peut-être les premiers de vos héros ?
Lemkin et Kerski, et d'abord Lemkin, parce que c'est le premier des deux auxquels je me suis fortement intéressée. Ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils voient ce que les autres ne voient pas. C'est qu'ils sentent les odeurs que les autres ne sentent pas.
c'est qu'ils entendent les sons que les autres n'entendent pas et qu'ils arrivent à le faire passer. Et en particulier Lemkin, parce qu'il a vu très tôt, dès 1921, c'est quand même très tôt, que ce qui s'était passé entre les Ottomans, les jeunes Turcs et les Arméniens, ça s'appelait un crime de masse.
Alors, moi, je suis venue avec un cadeau pour vous. Je suis venue avec la voix de Lemkin. Alors, en échange, j'aimerais que vous m'emmeniez dans votre pièce avec tous les livres de Lemkin et de Karski. Et moi, je vous fais écouter Lemkin.
Entendu.
Donc, j'en arrive tout au bout du couloir, la petite voilà. Pièce du bout.
Donc, la pièce du bout. C'est à la fois le lieu où je mets toutes les valises, donc c'est le lieu des voyages. Et puis, quand j'ai commencé il y a 5 ou 6 ans à travailler sur Karski et Lemkin, j'ai décidé de prendre cette pièce qui était une chambre d'amis jusque-là et de l'annexer à mon bureau.
C'est impressionnant parce que là, je vois tous les livres en fait, de Yann Karski et notamment Story of a Secret State.
Oui, j'ai la...
Vous parlez beaucoup dans votre livre.
C'est l'édition originale.
Vous l'avez trouvé où ?
C'est un ami américain qui l'avait acheté dans une brocante absolument par hasard et qui m'en a fait cadeau. C'est vraiment fantastique. Puis ensuite, je l'ai dans différentes versions en anglais et en français. Et même chose pour les mémoires de Lemkin qui d'accord. S'appelle Totally Unofficial.
Alors ça, c'est un titre incroyable.
C'est un titre formidable.
Il faut le traduire.
Mais c'est-à-dire tout à fait ce qu'on ne sait pas officiellement. Alors, c'est la personne privée, mais dit-il, sans rien de public. En réalité, il triche un petit peu, parce qu'il y a aussi du public dans ses mémoires, mais il essaye vraiment d'expliciter sa démarche. Comment, un jour, cet homme, qui s'appelle Raphaël Lemkin, va inventer le mot génocide.
Ben justement, on a apporté la voix de Lemkin, puisqu'elle est conservée à l'Institut national de l'audiovisuel, à l'INA. On va l'entendre ensemble.
Le mot génocide signifie le crime de détruire des peuples, des races, des religions. Ce nouveau mot est composé du grec génos, race, nation, tribu, groupement humain, et du latin sidere, tuer. Donc, le génocide est un nouveau mot parallèle aux mots comme homicide, infanticide. Dans la formation de ce mot, je me suis inspiré par un discours radiophonique de M. Winston Churchill d'août 1941 qui s'est référé à la boucherie dont se sont rendus coupables les nazis au cours de la guerre. Churchill disait « Nous nous trouvons en présence d'un crime sans nom ». Il nous aurait fallu ce mot, même avant Hitler, pour dénommer la destruction des groupements humains et qui sont choisis délibérément pour ce crime par les critères de la race, de la religion, de la nationalité. Le criminel coupable de génocide attaque normalement les trois éléments essentiels de la vie d'un groupement humain, l'élément physique, c'est-à-dire la vie, l'élément biologique, c'est-à-dire la procréation, et l'élément spirituel, notamment la religion et la culture. Donc, nous distinguons trois catégories de génocide, génocide physique, biologique ou culturel.
Est-ce pour cette raison que les Nations Unies, représentées actuellement au Palais de Chaillot, ont pris l'initiative d'une action contre le génocide et qu'une convention est actuellement à l'étude?
C'est exact. Mais pour arriver à ce résultat, il faut que les délégations aux Nations Unies abandonnent les préoccupations politiques qui les divisent et s'élèvent à un niveau purement humanitaire. Car la protection de la vie, de la religion et de la culture est si importante pour la survivance de notre civilisation qu'il faut écarter tous les obstacles qui jusqu'ici se montraient sur le chemin pour construire une véritable paix sociale et internationale.
Je vous laisse réagir, Annette Becker. Nous sommes en 1948. Lemkin fait adopter par l'Assemblée générale des Nations unies la Convention pour la prévention et la répression du génocide.
C'est très émouvant pour moi, bien sûr, d'entendre Lemkin dire tellement simplement ce qu'il a fait et en même temps ne pas dire ce qu'il a fait. Parce que c'est très intéressant de le voir nous expliquer longuement qu'il a créé le mot génocide sur le modèle de homicide ou d'infanticide. On pourrait dire aujourd'hui spécialement de féminicide. Dans les trois cas, il s'agit de mots bien formés. Or, lui, il a choisi de ne pas mettre deux radicaux latins, mais il a choisi de mettre un radical grec, genos, comme il nous l'a expliqué, avec un radical latin, occidere, tuer. Ce qu'il a fait, pour tous ceux qui ont fait du latin et du grec, ça s'appelle un barbarisme. On a entendu son français, on sait qu'il parlait des dizaines de langues parfaitement bien, et le latin et le grec parfaitement bien. Donc il a fait exprès de faire un barbarisme grammatical pour montrer ce qu'il appelait le crime sans nom, qui est devenu le crime avec un nom, le crime des crimes. Ce qui m'a passionné dans le personnage, et donc dans la façon dont j'ai essayé de concevoir le livre, c'est la façon dont il était capable, à chaque moment, de se poser des questions qui étaient des questions humaines et novatrices en même temps, mais les deux à la fois. C'est-à-dire qu'il, au moment où il découvre réellement l'extermination des Arméniens, c'est comme ça qu'on en parlait à l'époque, c'est au moment où un Arménien, Telerian, a assassiné Talaat Pacha, acte individuel, un seul responsable, et on sait aujourd'hui de plus en plus le responsable principal de l'extermination des Arméniens, et qui avait été exfiltré, protégé à Berlin. Et donc, un crime individuel, celui d'un homme, c'est un crime. Et donc, on est puni pour cela. Et le jeune Lemkin se dit, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose, on marche sur la tête. Cet homme est responsable de la mort de sans doute d'un million d'Arméniens. Et lui, il vivait tranquillement à Berlin. Et c'est celui qui l'assassine pour venger la mort de sa mère, la mort de sa famille. C'est lui qui, désormais, doit répondre de son crime. Et c'est cette espèce de retournement qui est le génie de Lemkin. Il se dit, parce que c'est un homme, je dirais ici, de la culture du 19e siècle, de la culture du progrès. On doit toujours aller vers plus de civilisation. Et donc le droit va m'aider à cela.
Dès 1941, Raphaël Lemkin, le juriste juif, et Jan Karski, le catholique résistant, ont perçu l'ampleur de l'extermination des Juifs d'Europe, mais les Alliés n'ont pas voulu les entendre. Dans son dernier livre, Messager du désastre, Annette Becker revient longuement sur ce qu'elle a découvert dans les rushs du film de Claude Lanzmann, Shoah.
Lanzmann avait besoin de quelqu'un, de préférence qui ne soit pas juif, pour avoir des témoins non-juifs, et qui ait vu le ghetto de Varsovie. Or, c'était ce qui était arrivé à Karski. Comme résistant, on l'avait fait pénétrer dans le ghetto de Varsovie pour qu'il puisse voir de ses yeux la spécificité du sort des Juifs enfermés dans le ghetto de Varsovie. Mais ce qu'on voit surtout dans les rues, ce sont des gens qui sont en train de mourir de faim, et ce qu'on voit aussi, et ce qu'il raconte, c'est une chasse faite par de très jeunes nazis qui s'amusent à assassiner des juifs, ils en ont parfaitement le droit,
et qui joue à la chasse avec des juifs dans le ghetto. Et ça, il le voit de ses yeux. Et dans les rushs aussi, il raconte son passage au camp de transit d'Izbika. Et dans ce camp de transit, qui était un camp de transit vers le site d'extermination de Belzec, il a vu des scènes insondables d'horreur. L'horreur maximum étant d'enfermer des juifs dans des wagons qui étaient remplis de chaux vives. Et donc ils mouraient brûlés vifs à la chaux vive. Il a vu cela et il a entendu les cris. Et quand, dans les rushs, il raconte cela, on a l'impression qu'il va de nouveau vomir, qu'il voit de nouveau, qu'il sent l'odeur de nouveau, qu'il entend les cris. Et ces rushs de Shoah, Karski, et de nouveau à Izbika, sont parmi les scènes de cinéma les plus atroces que j'ai jamais vues. Or, Lanzmann, bizarrement, ne l'a pas choisi.
Avant de quitter votre maison bibliothèque, Annette Becker, je vois sur vos étagères les nombreux récits de vie que vous avez choisi de publier depuis des années, de la France au Rwanda, en passant par les Antilles. Beaucoup de survivants ont parlé au nom du plus jamais ça, mais quelles leçons vous en avez tirées ?
Mais le plus jamais ça, c'est la suite de la Der Deder, de la Première Guerre mondiale. On ne veut plus jamais que ça se passe de cette façon-là, mais c'est pas parce qu'on veut que ça va pas se passer. Même chose pour le devoir de mémoire. C'est une expression totalement absurde et stupide. On ne peut pas avoir le devoir de se rappeler de choses qu'on n'a même pas vécues. Quand on dit aujourd'hui aux enfants des écoles, vous avez le devoir de mémoire sur l'extermination des Juifs d'Europe, ça n'a aucun sens. Mais en revanche, il y a un devoir d'histoire, c'est-à-dire d'essayer de retourner aux mécanismes qui ont rendu possible une telle catastrophe et de voir aussi comment les victimes l'ont vécu. Ça, c'est intéressant. Et ça, ça nous rapproche des êtres humains et ça nous redonne foi dans l'histoire.
C'est pour ça aussi, Annette Becker, que vous dédiez votre dernier livre, Les messagers du désastre, à ces jeunes filles rwandaises qui vous ont choisi comme grand-mère.
Absolument. Pour moi, au moment de faire la dédicace du livre, il était évident que je devais le dédicacer à la génération suivante. Donc, à ma fille, bien sûr, Sarah, et puis à ces quatre jeunes filles, maintenant cinq, puisque l'une d'entre elles a eu un bébé, qui sont les filles d'une survivante qui s'appelle Emilienne, qui a été notre guide au Rwanda et mon guide en particulier parce que je suis devenue très 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 amie avec elle. Et dans une cérémonie justement que raconte très bien Stéphane Audin-Rouzo dans Une initiation, où on a réinauguré la maison de ses parents qui avait été détruite en même temps que ses parents étaient assassinés. Les quatre jeunes filles qui vont de 14 ans à 22 ans avaient là un grand-père de substitution qui était un prêtre justement et qui depuis qu'elles sont nées, elles n'ont pas de grands-parents puisqu'ils ont été assassinés dans le génocide, leur a servi de grand-père. Et il s'est trouvé que j'ai sympathisé avec ce prêtre et que ce prêtre avait exactement le même âge que moi. Donc on a plaisanté là-dessus et à la fin de la journée, elles sont venues me voir et elles m'ont dit: on a toujours eu un grand-père de substitution, mais on n'a pas de grand-mère. Est-ce que tu veux devenir notre grand-mère ? Et j'ai fondu en larmes et j'ai dit oui, bien sûr. Et je prends mon rôle de grand-mère, même lointaine, très, très au sérieux. Et c'est cela, être une historienne nomade. On pourrait dire, alors non, on va oublier tout ça. Mais c'est impossible. Parce que bien sûr, il y a eu la vengeance d'un côté, mais il y a de l'autre côté million et demi de morts, et puis bien sûr les survivants
et essayer de les aider à vivre. C'était aussi cela, l'histoire. Essayer de faire que les êtres humains qui ont souffert puissent se reconnaître dans cette façon de voir le monde et d'essayer de continuer.
S'achève ce nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et réalisé par Elliot Bourrel. Plus d'infos sur l'actualité d'Annette Becker sur notre page RFI.fr, où vous trouverez sa bibliographie, ainsi que sa dernière publication, Messager du désastre, aux éditions Fayard. N'hésitez pas à vous exprimer sur notre page Facebook, podcaster. Cette émission, c'est la vôtre.